Universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 29 avril 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
À la une ce soir, les États-Unis demandent au Caire de prouver qu'il veut la démocratie après de nouvelles condamnations à mort d'islamistes. Au Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, le nombre de députés va augmenter.
C'est une situation extrêmement grave pour notre pays. Quand vous voyez le pays le plus pauvre au monde qui vit exclusivement de l'aide extérieure.
À Brazzaville, est difficile pour les entreprises d'obtenir des crédits auprès des banques.
Parce que nous n'avons pas de banques capables de répondre à cela. Nous avons des banques commerciales.
En fin d'émission, les sports, demi-finale de la Ligue des Champions ce soir entre le Bayern de Munich et le Real Madrid. Sans oublier Roger Muntou qui viendra ambiancer vos oreilles en fin d'émission. Mais tout d'abord, le journal.
L'Égypte a fait des progrès dans la transition démocratique, mais les dernières condamnations sont troublantes. Déclaration de John Kerry à l'issue de son entretien ce mardi avec le ministre égyptien des Affaires étrangères. Les responsables militaires au pouvoir en Égypte doivent prouver qu'ils sont sérieux dans l'instauration de la démocratie. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire d'État américain John Kerry.
Hier, les États-Unis ont dénoncé avec force les 683 condamnations à mort au Caire. John Kerry, lui, doit s'envoler ce mardi pour entamer une tournée sur le continent africain. Une visite qui commence par l'Éthiopie. Jacques Aristide.
Un périple d'une semaine pour encourager le développement de la démocratie, promouvoir le respect des droits de l'homme et faire avancer la paix et la sécurité sur le continent, selon le département d'État. À Addis Abeba, deux dossiers attendent le chef de la diplomatie américaine, la crise sud-soudanaise et l'emprisonnement de journalistes éthiopiens. En Angola, comme au Congo-Kinshasa, c'est avec les chefs de l'État de ces pays qu'il parlera de coopération bilatérale. À Luanda, le secrétaire d'État transmettra les encouragements de l'administration Obama au président José Eduardo dos Santos pour son leadership au sein de la conférence sur la région des Grands Lacs. Tandis que dans la capitale congolaise, il sera question avec le président Kabila des efforts pour neutraliser les groupes armés dans l'est de la RDC, mais aussi de la présidentielle de 2016. Comme il l'a souligné dans un entretien à la VOA, il serait mal avisé de modifier la constitution dans l'unique but de se maintenir au pouvoir. Allusion faite à la polémique autour d'un éventuel troisième mandat pour le président Joseph Kabila.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté la fin de l'embargo sur les diamants ivoiriens. La mesure frappait depuis 2005 la commercialisation de diamants bruts de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a depuis adhéré au processus de Kimberley qui régule le commerce des diamants. Pour une réaction, écoutez l'ambassadeur ivoirien aux Nations Unies, Youssoufou Bamba.
Ça traduit la reconnaissance des efforts faits par la Côte d'Ivoire en vue de normaliser la vie dans tous les secteurs d'activité, notamment en ce qui concerne la filière diamantifière. On ne pouvait pas exporter le diamant ivoirien. Donc tout ce qui était fait, c'était, si vous voulez, un peu intramuros. Donc ça suppose beaucoup d'illégalité, tout ça. Tout le monde a reconnu que la Côte d'Ivoire satisfait aux exigences minimales dans le cadre de la certification. Donc il fallait que l'embargo soit levé pour que la Côte d'Ivoire puisse exporter.
Youssoufou Bamba, joint à New York.
Et puis les Nations Unies, dans une même résolution, adoptée à l'unanimité, ont aussi assoupli l'embargo sur les armes. Les armes lourdes restent strictement contrôlées, mais des armes légères pourront désormais être livrées à la police et la gendarmerie ivoirienne, sous réserve de notifications préalables de l'ONU.
Et cette annonce, hier soir, depuis Abidjan, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Mamadou Koulibaly, s'est déclaré candidat à la présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire, dont l'impréparation, selon lui, pourra aboutir à de graves troubles.
À Dakar, le retour de l'ancien président sénégalais continue d'alimenter le débat. Abdoulaye Wade vient pour faire pression sur la justice, selon Aminata Touré. Le Premier ministre sénégalais a fait cette déclaration aujourd'hui devant l'Association de la presse étrangère au Sénégal.
Passage obligé à Bamako pour Moussa Mara. Le Premier ministre malien a prononcé son discours de politique générale à l'Assemblée. Vendredi prochain, le Premier ministre va répondre aux questions des députés. Kassim Traoré.
C'est la première déclaration de politique générale d'un Premier ministre malien après la crise, Moussa Mara.
Faisons en sorte que plus jamais le Mali n'ait besoin de quelqu'un d'autre pour se protéger, se défendre et assurer sa sécurité. Relevons-nous et engageons-nous dans un grand élan de sursaut national pour réaliser ce dessein pour nous-mêmes et pour nos enfants. Le sursaut national est plus que nécessaire.
Les documents soumis au vote des députés appellent les Maliens à la reconstruction du pays.
La réalisation de ce projet implique pour chaque Malien le devoir de conduire une œuvre de transformation économique et sociale qui permette de conjurer les périls que sont l'insécurité dans le nord du pays, la désagrégation des institutions publiques, la corruption.
Dans les jours, mois et années à venir, le Premier ministre et son gouvernement veulent sortir des discours pour poser des actes concrets.
La restauration de l'intégrité du territoire et la sécurisation des biens et des personnes, la réconciliation des Maliens, le redressement de l'école, la construction d'une économie émergente, restructuration engagée des forces armées et de sécurité avec une unicité de la chaîne de commandement, une hiérarchie militaire clairement sous l'autorité du pouvoir politique.
Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
À Ouagadougou, les organisations de la société civile burkinabé appellent à manifester contre une révision de l'article 37 de la Constitution. Samedi, le CDP, le parti au pouvoir, avait demandé au président Compaoré de convoquer un référendum en vue de modifier cet article. Je vous rappelle que Blaise Compaoré est au pouvoir depuis le coup d'État de 1987.
La Guinée a enregistré depuis le début de l'année 74 décès sur 121 cas de fièvre Ebola examinés en laboratoire. C'est ce qu'annonce ce soir le ministère guinéen de la Santé dans un communiqué diffusé aujourd'hui.
Les pourparlers entre les deux belligérants sud-soudanais ont repris hier à Addis Abeba. Il n'y a pas encore de dialogue direct entre les deux camps qui se sont penchés mardi chacun de leur côté sur un projet d'ordre du jour des discussions. Le cessez-le-feu signé en janvier n'a jamais été respecté.
Par ailleurs, Toby Lanzer, chef des opérations humanitaires de l'ONU au Soudan du Sud, appelle à une trêve pour éviter la disette. L'ONU a prévenu que la famine menace plus d'un million de personnes déplacées par ce conflit.
En Centrafrique, l'insécurité persiste dans la capitale et à l'intérieur du pays. Un jeune homme a été mutilé aujourd'hui par des inconnus au quartier Fatima, dans le 6e arrondissement de Bangui. Le point tout de suite avec Félix Yepassi Zembro.
Selon Abakar Ousmane, porte-parole des musulmans de PK5, la victime est un jeune musulman qui a été enlevé par des anti-Balaka alors qu'il rendait visite à sa mère, non musulmane, au quartier Fatima. Ahmad Deliris, vice-président de la communauté islamique, précise que les ravisseurs l'ont tué, mutilé et jeté son cadavre sur la route. La nouvelle a créé une vive émotion au PK5. Des jeunes en colère ont exhibé le corps devant le commissariat du 3e arrondissement où sont basés les soldats burundais de la MISCA. En début de soirée, des tirs à l'arme légère ont été entendus dans le secteur. Dans un échange avec les syndicats, la présidente Catherine Samba-Panza appelle tous les travailleurs à mettre la main à la pâte pour aider à sortir de la crise.
Je tiens à remercier l'ensemble des travailleurs pour leur patriotisme et leur attitude citoyenne. Mais je les exhorte à se mobiliser davantage, car c'est d'eux que viendra le signal fort de la reprise des activités socio-économiques dans notre pays.
Signalons qu'une mission de l'Organisation de la Conférence islamique séjourne depuis ce matin à Bangui afin d'aider à ramener la paix en Centrafrique.
Nouvelle violence politique en Libye. Des hommes armés ont investi les locaux du Parlement alors que les législateurs s'apprêtaient à élire un nouveau Premier ministre. Le vote a donc été reporté à la semaine prochaine, Nicolas.
Et oui, deux candidats sont arrivés en tête du premier tour. Ahmed Mitig, homme d'affaires originaire de la ville de Misrata, et Omar Alassi, universitaire de Benghazi, avec respectivement 67 et 34 voix sur 152 députés présents. Le vainqueur succédera à Abdallah Al-Thani, qui a récemment démissionné.
Sahara occidental, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui appelle à améliorer les droits de l'homme dans cette région. Les Nations Unies n'ont cependant pas instauré de mécanisme de contrôle. Le mandat de la MINURSO, mission de l'ONU au Sahara occidental, qui se termine fin avril, a également été renouvelé pour un an.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et il est 19h39, temps universel. Dans le reste du monde, les États-Unis qualifient de terrorisme les violences commises dans l'est de l'Ukraine contre les partisans de l'unité du pays et l'enlèvement d'observateurs de l'OSCE. C'est ce qu'affirme l'ambassade américaine à Kiev dans un communiqué. Par ailleurs, l'Union européenne annonce à son tour de nouvelles sanctions contre 15 personnalités russes. Elles sont ciblées en raison de leur rôle dans la crise ukrainienne. Michel Joseph, Moscou a réagi en accusant l'UE de ne comprendre absolument rien aux réalités politiques ukrainiennes.
Pour le ministère russe des Affaires étrangères, ces sanctions européennes constituent une invitation directe aux néo-nazis locaux pour la poursuite de leurs actes anarchiques dans le sud-est. Le Kremlin a promis une réponse douloureuse. Hier, 7 responsables et 17 entreprises russes ont été aussi ciblées par Washington pour un gel de leurs avoirs et une interdiction de se rendre aux États-Unis. De son côté, le Japon va refuser des visas à 23 Russes qu'il n'a pas identifiés. Sur le terrain, après des assurances données hier par le ministre russe de la Défense à son homologue américain, un porte-parole de l'OTAN a souligné aujourd'hui que rien n'indique un retrait des forces russes de la frontière ukrainienne. Des séparatistes pro-russes ont saisi aujourd'hui le QG du gouverneur régional à Luhansk, ce qui porte à au moins 11 le nombre de localités où ils occupent des bâtiments gouvernementaux dans l'est et le sud de l'Ukraine.
En Syrie, 36 personnes ont trouvé la mort dans un attentat à la voiture piégée à Homs. L'attaque s'est produite dans un quartier essentiellement alaouite de cette ville assiégée. Par ailleurs, dans la capitale Damas, des obus de mortier ont tué au moins 14 personnes et fait plus de 80 blessés. Des élèves d'une école religieuse compteraient parmi les victimes. Pour le gouvernement syrien, ces bombardements sont l'œuvre de terroristes, un terme régulièrement utilisé pour désigner les rebelles.
Et les forces gouvernementales font-elles aussi l'objet d'accusations? Human Rights Watch affirme qu'elles continuent de bombarder Alep en dépit d'une résolution de l'ONU exigeant l'arrêt de telles attaques. Toujours dans la région, les Irakiens sont appelés aux urnes demain pour les élections législatives. Ce seront les premières élections depuis le départ des troupes américaines, c'était en 2011. Jean-Roger Billon, les observateurs craignent cependant une flambée de violence.
Deux autres bombes ont explosé aujourd'hui en Irak, tuant au moins 10 personnes à la veille du scrutin. Les explosions se sont produites à Al-Sadia, à environ 140 km de Bagdad. Des attentats dans la capitale irakienne et les régions au nord de la ville ont fait hier au moins 50 morts. Le vote a débuté lundi matin pour ceux qui ne pourront le faire mercredi. Les observateurs prédisent que les choix des électeurs se feront probablement en fonction des alliances sectaires et ethniques. Aucun parti n'est donné favori. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné les attaques qui visaient des dirigeants politiques et des candidats. Dans une déclaration lundi soir, il a exhorté les dirigeants irakiens à s'assurer que tout le monde soit en mesure de prendre part au processus politique. Le chef de l'ONU a également salué la commission électorale de l'Irak pour la tenue des élections dans les délais et a qualifié le vote d'étape importante dans la transition démocratique dans le pays.
Exercice militaire en Corée du Nord, Pyongyang a entamé des tirs d'artillerie près de sa frontière maritime contestée avec la Corée du Sud. Des exercices prévus, affirme Séoul, qui dit avoir été informé par Pyongyang. La Corée du Nord avait tenu des exercices similaires le mois dernier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec et Nicolas Pinault.
Et bienvenue dans cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. Partons pour le Niger, où le gouvernement a adopté un projet de loi pour faire passer le nombre de députés de 113 à 171. L'objectif est de répondre à une augmentation de la population par rapport à 2002. Mais vous allez l'entendre, la mesure n'est pas du goût de tout le monde, particulièrement au sein de la société civile. Idriss Fall a joint à Niamey Ali Idrissa du Rotab, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire.
C'est une situation extrêmement grave pour notre pays. Quand vous voyez le pays le plus pauvre au monde, qui vit exclusivement de l'aide extérieure et des emprunts, qui se permet d'augmenter le nombre de députés. Déjà, nous trouvons ce nombre de 113 députés très élevé par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. Ces députés ne font même pas le travail pour lequel ils sont élus. Et qu'on puisse vouloir aujourd'hui augmenter le nombre de députés, nous trouvions ça très très grave et inconscient. Pour nous, c'est un complot de la classe politique nigérienne contre le peuple nigérien.
Mais c'est dans quel but? Que dit le gouvernement comme argument pour vouloir augmenter le nombre de députés?
Le gouvernement veut augmenter le nombre de députés par rapport à la population, soi-disant.
qui a augmenté de 1 million ou bien à 2 millions, nous ne pouvions pas comprendre qu'on puisse augmenter 58 députés parce que les populations nigériennes ou bien l'effectif des populations nigériennes a augmenté de près d'un million. C'est une aberration pour nous. Cet argument du gouvernement ne tient pas parce que ces 113 députés actuels ne font même pas le travail pour lequel ils sont élus. Il serait même important de diminuer sur le nombre de députés pour pouvoir faire des économies sur les charges de fonctionnement de cette institution, investir dans l'éducation, dans la santé et prétendre pouvoir aller au développement de notre pays.
Est-ce que même les députés actuels, on les entend dans les négociations entre le gouvernement et Areva, par exemple? Est-ce qu'ils représentent vraiment les intérêts des populations?
C'est ce que nous trouvons très grave. Les députés actuels ne s'occupent même pas des débats économiques, des débats qui ont des enjeux pour notre pays, notamment les renégociations Niger-Areva, qui ne discutent même pas en une journée et qui se permettent aujourd'hui. La situation actuelle par rapport au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, qu'ils puissent bloquer cette question pendant plus d'une semaine par rapport à des postes, nous trouvons ça très très grave et nous dénonçons le comportement de ces députés qui ne sont plus les représentants du peuple nigérien, qui ne représentent que eux et leurs seuls intérêts.
Les explications d'Ali Idrissa, il était joint à Niamey.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, la politique américaine pour l'Afrique subsaharienne, avec en toile de fond la tournée du secrétaire d'État John Kerry en Afrique cette semaine. Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
À Brazzaville, les opérateurs économiques n'accèdent pas facilement au crédit bancaire pour réaliser leurs projets. Les banques, pourtant en surliquidité, redoutent souvent de perdre de l'argent face à des entreprises peu rassurantes. Trop de risques qu'elles ne peuvent pas prendre. À Brazzaville, notre correspondant Ngolan Goussou.
En 2013, par exemple, les banques congolaises se sont encore endormies sur plus de 700 milliards de francs CFA de surliquidité. Les opérateurs économiques qui recherchent des crédits pour financer leurs projets n'obtiennent rien. El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka, le président du patronat congolais, est quasiment aux abois.
Les opérateurs économiques, que ce soit grands ou petits ou micros, ont des difficultés pour leur relance aux activités économiques parce que nous n'avons pas de banques capables de répondre à cela. Nous avons des banques commerciales. Les taux ne peuvent pas répondre à quelqu'un qui veut investir dans une activité industriel qui a rentabilité à moyen et long terme.
Insensibles, les banques ne tiennent pas à perdre un seul sou de leurs bénéfices avec les entreprises congolaises qui n'offrent, semble-t-il, pas assez de garanties. Alexandre Mayamat est le responsable de la Société Générale Congo, filiale d'une banque française.
La singularité de la Société Générale, présente en Afrique depuis 50 ans, c'est qu'elle a su y développer des modes de financement qui permettent à la fois de répondre aux besoins des particuliers et des entreprises africaines, tout en préservant la qualité de nos risques. Parce qu'une banque qui maîtrise ses risques, c'est une banque en qui on a confiance.
Les autorités congolaises estiment que c'est une affaire entre les banques et leurs clients. Toutefois, le gouvernement envisage des mesures d'accompagnement telles que l'énonce ici Gilbert Ondongo, le ministre des Finances.
Au niveau du Conseil des ministres, nous travaillons à déterminer des règles qui rendent le crédit un peu plus facile. Et le plus important pour nous à faire, c'est de disposer des ressources longues qui sont adaptées à l'octroi des crédits aux investisseurs.
Pas assez rassurant ni concret pour le président du patronat, Abdoulaye Bopaka.
Le gouvernement jusque-là n'a pas encore fait un effort considérable à ce niveau-là. Donc nous sommes comme un peu les gens abandonnés et nous n'avons pas de fonds.
Signalons que le taux de bancarisation au Congo est encore de 5% et seulement 3,4% d'entreprises locales accèdent au crédit bancaire selon la Banque mondiale. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Parlons à présent de la Centrafrique. Le Haut-Commissariat de l'ONU chargé des réfugiés a condamné l'attaque hier contre un convoi de musulmans qui fuyait les violences à Bangui, Morgan.
Un groupe armé a jeté des grenades sur ce convoi de 1300 musulmans près de Dekoua au nord, faisant 2 morts et 6 blessés. Idriss Fall a recueilli la réaction de Kwasi Lazaritienne, représentant du HCR à Bangui.
C'est assez triste que cette attaque, malheureusement, on ne peut pas ratisser toute la brousse ou la broussaille le long de ce long chemin qui mène de Bangui jusqu'à Cabo et Moïse-Sido. Naturellement, ceux qui ont attaqué ont trouvé donc des points stratégiques où ils ont lancé des grenades et après se sont évanouis dans la nature, environ à Dissikou, à 50 km de Kazabandoro. On déplore deux morts et six blessés. Le convoi a pu rallier Kazabandoro dans la journée d'hier où il a passé la nuit. Donc les blessés ont reçu les premiers soins et aussi ont pu manger, se reposer. L'escorte a repris le chemin aujourd'hui en espérant que le groupe arrive aujourd'hui à Cabo et à Moïse-Sido.
Mais ce n'est pas la première fois qu'on attaque des musulmans qui veulent fuir l'enfer de Bangui.
La situation est assez délétère, la tension est permanente. Et c'est pour cela aussi que, pour parer à toute éventualité, nous avons pris les mesures, avons bénéficié donc de la coopération des forces internationales, à savoir la MISCA pour ce cas bien précis. Mais aussi habituellement, aussi Sangaris nous appuie. Mais comme je vous disais, le convoi est assez long et on ne pourrait pas avoir des soldats comme des piquets tout le long du chemin. L'escorte a été organisée en se disant quand même que les risques ne sont pas à écarter à 100%. Autrement dit, on n'aurait pas prévu donc l'escorte.
Les musulmans sont coincés dans des quartiers de Bangui et le gouvernement ne souhaite pas qu'ils soient relocalisés ailleurs.
Le gouvernement joue sur un terrain qui n'est pas forcément le nôtre, non humanitaire. Le gouvernement a une position que nous comprenons aussi. Mais nous avons le mandat international de protéger les personnes en danger. Et c'est bien le cas de ces musulmans qui sont dans les poches, qui sont coincés. Et cela dure depuis des semaines et des mois. Et plus d'une fois, nous avons approché les autorités qui elles-mêmes ont compris la nécessité de protéger ces gens pour comprendre aussi le gouvernement. Bon, c'est une question de moyens. Aujourd'hui, le gouvernement bataille sur plusieurs fronts. Il était de notre devoir, nous humanitaires, de prendre nos responsabilités. Et je pense qu'aujourd'hui, une vie de sauver vaut toute autre considération.
Kouassi Lazare Etienne, du HCR à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Et la Voix de l'Amérique, c'est aussi du sport. Nous accueillons dans ce studio Timothée Donangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Nicolas.
Timothée, on commence par du football. Hein. En Europe, la Ligue des Champions reprend ses droits ce soir.
Et oui Nicolas, le Real Madrid qui avait un tout petit but d'avance est en train de laminer le Bayern à Munich en demi-finale retour de la Ligue des Champions. 3-0 en première mi-temps, doublé de Ramos aux 16e et 20e minutes, suivi d'un but de Ronaldo à la 34e. Et demain, l'autre demi-finale opposera l'Atlético Madrid à Chelsea.
On aura peut-être une finale 100% espagnole. Retour Timothée sur le tirage au sort des éliminatoires de la CAN au Maroc.
Et oui, depuis dimanche, les nations africaines connaissent leur sort pour espérer participer au tournoi continental l'année prochaine. Il y aura encore deux tours de barrage avant d'accéder à la phase de poule. Et dans trois semaines, les matchs du deuxième tour auront lieu. Dans un contexte toujours très difficile à Bangui, les Centrafricains doivent rencontrer la Guinée-Bissau. Incertitude sur le lieu de la rencontre. Écoutons à ce sujet Jean-Jacques Ombi, le DTN centrafricain.
C'est ce que nous allons voir. Pour l'instant, la sécurité revient tout calmement, mais ça dépendra de la CAF ou bien de la Guinée s'ils acceptent et que nous acceptons. Mais pour nous, nous aimerons vraiment jouer à Bangui. Il y a des dispositions pratiques qui seront prises, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la fédération. Donc il y a des dispositions qui seront prises à ce niveau et tout dépendra vraiment de la Guinée. S'ils acceptent de venir, on pourra jouer ce match.
Jean-Jacques Ombi, joint à Bangui.
Et on va parler à présent de basket. Hein. La NBA, le championnat de basket nord-américain, la sentence est tombée ce soir contre Donald Sterling, le propriétaire des Clippers de Los Angeles. Ça fait un énorme bruit ici aux États-Unis. Timothée, il est banni à vie de la NBA.
Et oui, Nicolas, c'est une décision qui fait suite à cette diffusion de ces tirades racistes. Dans une conversation téléphonique avec sa maîtresse, le commissaire de la NBA, Adam Silver, l'a donc banni à vie de toute activité liée au club des Clippers et au basketball professionnel nord-américain. En outre, Donald Sterling est exclu du groupe des propriétaires de clubs de la NBA. Il devra donc vendre son club. Mais pour ce faire, il faudra qu'au moins trois quarts des propriétaires votent en faveur d'une telle vente. Donald Sterling devra aussi s'acquitter d'une amende de 2,5 millions de dollars, des fonds qui seront remis à des organisations antidiscrimination.
Timothée, on le disait, cette affaire fait un énorme bruit. Quelques réactions déjà ce soir ?
Et oui, l'ancien basketteur Kevin Johnson, maire de San Antonio et représentant des joueurs dans cette affaire, s'est félicité de la décision du commissaire Silver, mais a dit que beaucoup reste à faire contre le racisme. Nicolas, il faut dire que le commissaire Silver n'avait pas tellement le choix. Il n'est dans son poste que depuis 3 mois, donc il se devait de frapper un grand coup pour montrer qu'il est sérieux contre le racisme.
Alors Timothée, M. Sterling est milliardaire, hein, 2,5 millions, c'est pas beaucoup pour lui. Est-ce qu'il va vraiment céder?
Alors, il livrera probablement un baroud d'honneur devant les tribunaux. Mais l'affaire a pris une telle ampleur ici aux États-Unis qu'il a peu de chances de succès. Des joueurs de la NBA au président Barack Obama, en passant par des artistes de tous bords, la condamnation de Donna Sterling par les fans a été catégorique.
Un peu plus réjouissant sur les parquets, les résultats des playoffs hier soir.
Et oui, hier soir, il y avait 3 matchs au programme. Miami s'est qualifié en remportant son 4e match face à Charlotte, 109-98. Atlanta a battu Indiana, 107-97. Et tard dans la soirée, San Antonio a eu raison de Dallas, 93-89.
Merci beaucoup, c'était Timothée Donongmaï pour le Journal des Sports.
Voilà, et comme tous les soirs, on achève cette émission sur la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Alors, une mauvaise nouvelle, l'artiste musicien Joe Etonde s'est éteint la semaine dernière à Douala, au Cameroun, de suite d'un malaise. Hein, un de ses morceaux forts, Ndolasso. On écoute.
Banana Joe de la Bembe, Zena Etanasu, Nero Comena, Singing in Yango, Banana Joe de la Bembe, Zena Etanasu, Nero Comena. Waiting on you, I wape wala TBA. Wait on us, you wait on us. Waiting on you, I wape wala.
Voilà, Joe Etonde laisse à ses fans 6 albums, une vingtaine d'expositions et un recueil de poèmes, Les Réflexions Poétiques, sorti en 2008.
Oui, Morgan, Joe était un artiste complet, non seulement un très bon auteur-compositeur, mais aussi un grand peintre. Hein. L'auteur de Niambe venait d'ouvrir aussi une galerie d'art contemporain à Douala, une grande perte pour le monde de la culture.
Yeah.
Voilà, c'était Joe Etonde Ndolassou. Merci Roger.
Gloria Morgan.
Roger Muntou que vous retrouvez dans quelques instants dans le RM Show. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec et Nicolas Pinault. À demain.